Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Édouard.
Bonjour frère Philippe.
Nous continuons notre parcours avec le Christ, et là le Christ dans sa passion, dans sa mort, dans ce mystère où s'accomplit le salut. Nous étions revenus la dernière fois, lors de notre dernier entretien, sur cette clé de lecture, si je puis dire, que le paragraphe 576 du catéchisme nous ouvrait avec les trois sections suivantes, où tu expliquais que les catégories dans lesquelles nous allons comprendre le rapport de Jésus à la loi, c'était celle que nous avons assez spontanément, nous prenons assez spontanément, qui est le dépassement. Jésus dépasse ce qu'il a vécu, mais tu disais, je crois même que quand nous en parlions ensemble, tu disais, si nous ne voulons pas tomber dans quelque chose qui pourrait être une forme de marcionnisme, c'est-à-dire de ne plus intégrer la tradition dans laquelle Jésus s'inscrit, ce premier testament, il faut aussi intégrer la continuité comme clé de lecture de cet accomplissement du salut dans la mort de Jésus, et également la rupture détachement. Ce sont les trois catégories que tu donnais, parce que le catéchisme, comme tu le faisais remarquer, met beaucoup en valeur des articles 577 à 591, met beaucoup en valeur ces trois catégories, ces trois clés de lecture de cette œuvre de salut. J'avais raccroché ça à ce mystère de la mort sur la croix de Jésus. J'avais cité nous prêchons un Messie crucifié, d'ailleurs en me trompant. Je me suis rendu compte, en me trompant de référence, ce n'était pas dans la lettre aux Hébreux, mais dans la première lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 1 de la première lettre aux Corinthiens. Aujourd'hui, nous partons sur le paragraphe 601, qui, là, nous entraîne également dans Jésus, mais par rapport à cet accomplissement des Écritures. Finalement, c'est la continuité de ce qu'on avait fait, en fait. Le titre qui est donné, c'est une citation de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, « Mort pour nos péchés selon les Écritures ». Il y a, donc en 1 Corinthiens 15, 3, enfin dans cette partie-là, par deux fois, il est dit « selon les Écritures ». Ce qui s'accomplit, c'est véritablement « selon les Écritures ». On trouve ça très marquant, évidemment, aussi, dans l'évangile selon saint Luc, quand Jésus parle, Jésus ressuscité, le Christ ressuscité parle aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il parle de sa passion, de sa mort. Il dit il fallait accomplir ainsi les Écritures. Il fallait que le Messie souffrît ainsi pour accomplir les Écritures. Là, c'est aussi un mystère profond que de dire on est pleinement dans cette réalisation de ce que Dieu a apporté, toute cette alliance dans laquelle on se trouve, cet accomplissement du salut.
Oui, et d'une certaine manière, les trois catégories que nous avions mis en valeur la dernière fois, c'est-à-dire la continuité, rupture, détachement et vraiment dépassement, peuvent dans le fond se résumer en un mot, accomplissement.
Eh oui.
Ce mot, dans le fond, dit les trois d'un seul coup. Et c'est là le génie, je dirais, de ces formules résumées, hein, on appellera ça en langage exégétique une hypallage, c'est-à-dire on dit un mot pour plusieurs, mais il faut bien avoir, je dirais, mouillé au texte avant pour mieux le comprendre, car la formule de l'accomplissement pourrait être purement matérielle, c'est-à-dire telle prophétie, on va la matérialiser. Jésus est bien monté sur le petit ânon le jour où il est rentré à Jérusalem, et on va essayer de limiter l'accomplissement dans un sens purement de visualité, alors qu'il y a quand même des dimensions beaucoup plus profondes. Et c'est vrai que l'accomplissement des Écritures, c'est cela qui, dans la profession de foi de saint Paul, à la fin du chapitre 15, que le numéro 601 du catéchisme de l'Église catholique cite avec cette première, dans le fond, ce premier mini-credo que saint Paul professe. « Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, la plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent, et quelques-uns se sont endormis. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. » C'est très beau, cette profession de foi. Et on sent bien que cet enracinement selon les Écritures est tellement importante pour les premiers chrétiens, puisqu'ils n'ont cessé d'essayer d'expliquer tout ce que Jésus a vécu à partir du don de la révélation. Et notre grand saint Augustin, qui est par excellence le père des pères, comme disait Paul VI, a trouvé une formule magnifique pour nous faire comprendre le passage de la première alliance à la nouvelle alliance, des premières écritures aux nouvelles écritures, qui ne sont pas écrites évidemment au moment des premiers événements de la Pentecôte. Il faudra attendre la mise en forme de la tradition orale dans une tradition écrite qui seront les quatre évangiles, puis les lettres aussi qui s'y rattachent, les lettres de saint Paul et des apôtres, les actes des apôtres, etc. Alors voilà ce que dit saint Augustin. On le retrouve d'ailleurs au numéro 129, assez tôt dans le catéchisme. Le nouveau, en sous-entendant le Nouveau Testament, se cache dans l'Ancien, l'Ancien Testament, et dans le Nouveau, l'Ancien se dévoile. Admirable, donc, expression de saint Augustin, qui montre bien que les chrétiens ont voulu bien montrer la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. D'ailleurs, les premiers commentaires sur la transfiguration du Christ utilisaient essentiellement la présence de Moïse et d'Élie aux côtés de Jésus pour bien montrer qu'il n'y avait pas de martionnisme, il n'y avait pas de coupure. Ils étaient bien là, tous les deux, pour montrer qu'ils apportaient les écritures des prophètes, les écritures de la loi avec Moïse, et que Jésus était là, il tenait presque la main aux deux, parce qu'il les accomplissait, il les tenait comme lieu de lecture pour qu'il soit compris lui-même. Et c'est important donc de le souligner ici. On peut songer aussi à de nombreux psaumes, de nombreux passages d'Isaïe, le serviteur souffrant, les quatre chants du serviteur, qui ont beaucoup servi aux chrétiens pour expliquer ce qui était quand même difficile à dire, c'est-à-dire pourquoi cette déréliction de Jésus, pourquoi cet anéantissement dans la mort, dans le tombeau. C'était choquant, alors que les écritures parfois juives pouvaient dire que Dieu venait toujours en aide aux justes. Alors c'est vrai qu'il est venu en aide aux justes, mais après sa mort, par sa résurrection. Donc la résurrection du Christ est apparue comme une garantie que tout ce que Jésus avait vécu était vrai, était juste, était conforme. Et nous avons un passage dans les Actes chapitre 17 de la toute première prédication de Paul, c'est à l'Aréopage, où il utilise cette expression de la résurrection, c'est au chapitre 17, verset 31, « Parce que Dieu a fixé un jour pour juger l'univers avec justice par un homme qu'il a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. » La résurrection des morts est une garantie que la mort de Jésus n'est pas le point final, que la passion de Jésus n'est pas le terme. Il y a la vérification que ce qui était dit dans la première alliance, que Dieu vient au secours du juste, c'est vraiment accompli aussi pour lui. Alors qu'aux yeux évidemment humains, aux yeux des Romains, bon bah tout était fini, il était crucifié, il était enterré, il était dans son tombeau, puis terminé. Et on comprend très bien qu'il y a eu une limitation à ce moment-là dans la vision de ce que pouvait représenter Jésus. La mort rédemptrice de Jésus accomplit en particulier la prophétie du serviteur souffrant. Jésus lui-même a présenté le sens de sa vie et de sa mort à la lumière du serviteur souffrant. Après sa résurrection, il a donné cette interprétation des Écritures aux disciples d'Emmaüs, puis aux apôtres eux-mêmes. Et donc, on voit bien que Jésus s'est servi des Écritures dans le sens de ce qu'il avait vécu, mais il n'a pas perdu du tout l'enracinement de cet accomplissement dans les Écritures. Les prophéties se sont vraiment accomplies en lui dans toutes ses dimensions, y compris parfois d'une manière très concrète, comme dans le psaume, quand on dit qu'un compagnon, celui qui partageait le pain, a levé la main sur lui. Eh bien, comment ne pas entrevoir Judas, le rôle d'iniquité de Judas, quoi. Jésus l'a vécu d'une manière psalmique, c'est-à-dire qu'il a... Il l'a compris comme étant l'accomplissement des Écritures.
Oui, puisqu'il a utilisé lui-même à prononcer ce verset du psaume.
Et c'est ça.
Psaume 40.
Oui.
Et le psaume 21, puisqu'on est dans les psaumes, est une sorte de tableau déjà de ce qui s'accomplira, et à la fois en cette passion et cette résurrection, où le psaume passant de la...
Oui, de la dérédiction.
De la dérédiction.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver les paroles que je rugis. Mon Dieu, le jour j'appelle et tu ne réponds pas. La nuit, point de silence. Et puis à la fin, tout s'élimine, hein, puisque ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, que vive votre cœur à jamais. De toi vient ma louange, dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Et voilà, il y a vraiment une louange de victoire, finalement. Et c'est ça qui est très beau.
Merci, frère Édouard.